l'avez lu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto édition du 8 janvier 2022. Alors, bonne année, parce que c'est notre première émission de 2022.
Ben oui, après une petite pause des fêtes, nous voilà de retour.
Bon. Germain, on va recevoir en deuxième partie d'émission Mathieu Roy, qui n'a pas la langue dans sa poche. Alors, j'ai peut-être l'impression que l'entrevue va s'étirer, parce que Mathieu, il a toujours beaucoup de choses à dire. Ça va être bien intéressant. On va parler de technologie, parce que se tenait dans les derniers jours le CES du côté de Las Vegas, Consumer Electronics Show. Alors, il y a beaucoup de technologies reliées à l'automobile qui a été dévoilée là-bas. Et moi, je commence aujourd'hui en vous parlant de la relance de Chrysler par un véhicule électrique qui a été présenté en amont du CES. En fait, c'est la Chrysler Airflow. On ramène le nom Airflow qui avait été utilisé dans les années 30 chez Chrysler, de 1934 à 1937.
Donc, les gens ont eu le temps de l'oublier.
Là. Oui, absolument. Une voiture qui était futuriste pour l'époque, qui était plus aérodynamique, qui était plus sécuritaire, entre guillemets.
Toujours selon les standards de l'époque.
C'est ça, exactement. Mais qui avait des avancées technologiques que les autres véhicules n'avaient pas pour cette époque-là. On a ramené le nom sur la table, mais cette fois pour présenter un véhicule concept, mais très réaliste, que je trouve particulièrement joli, qui est carrément un multi-segment, là, qui ne fait pas VUS du tout. Là. C'est aucunement angulaire. C'est une grosse voiture avec un très long d'empattement parce qu'on comprend que c'est une voiture électrique. Alors,
et que les batteries sont positionnées dans le plancher.
Ben oui, exactement. Alors, cherchez pas pourquoi les véhicules ont des empattements toujours de plus en plus longs. C'est parce que les châssis intègrent les batteries qui sont souvent très grosses. C'est le cas de ce véhicule-là. On n'a pas dévoilé officiellement la taille de la batterie, mais sur des images qu'on nous présentait, bien, on voit à un endroit une batterie pleinement chargée de 112 kWh. Alors, on peut imaginer que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Deux moteurs électriques de 150 kW chacun placés sur chaque essieu, donc c'est un véhicule à quatre roues motrices. Très belle ligne, très luxueux, très futuriste, très spacieux à bord aussi. Alors, c'est la Chrysler Airflow et c'est un véhicule qu'on commercialiserait pour le millésime 2025. Mais ce qu'on a annoncé aussi chez Chrysler, c'est que tous les véhicules de la marque Chrysler seront électrifiés à partir de 2028.
Et finalement, c'est ça la grande nouvelle. Donc, on n'a pas l'intention de tuer la marque Chrysler. Visiblement, on a une vision de cette marque-là. On a un plan qui semble bien établi et un plan qui est totalement électrique, là.
Absolument. Alors, Chrysler sera la marque du futur. En fait, la marque où le passage à l'électrification des véhicules de la grande famille Stellantis va se faire. Donc, on développe des technologies, on les applique d'abord à la marque Chrysler. On comprend que les véhicules qui seront vendus par Chrysler seront probablement plus chers que la moyenne des véhicules électriques qui seront vendus, notamment chez Dodge ou chez Jeep, peut-être. Alors, on va commencer par Chrysler. On va ensuite multiplier les offres chez les autres marques du constructeur automobile. Mais on croyait que Chrysler serait mort et visiblement, c'est pas le cas. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est ça. On dit que d'ici 2028, tous les véhicules de la marque Chrysler seront électriques. Est-ce qu'on a l'intention d'ici là d'amener d'autres véhicules badgés Chrysler qui auront des moteurs à combustion, des nouveautés? Ça, c'est une bonne question. Et l'autre question...
Mais je pense pas qu'on aura une Chrysler 300 dans une forme d'une berline comme on l'a en ce moment, qui sera électrique. Là.
Ça, d'ici la fin de l'année 2023, il faut s'attendre à ce que la voiture disparaisse. Mais est-ce que ça veut dire que dans les plans de Chrysler, on va étirer la fourgonnette Pacifica actuelle à moteur à essence jusqu'en 2028? On a de la misère à s'imaginer ça en ce moment, mais faut pas oublier...
Parce que le succès n'est pas au rendez-vous. Là.
Ben, parce que le succès pas au rendez-vous, puis parce que le marché de la fourgonnette n'est plus ce qu'il était. Je veux dire, on a réussi à vendre des Dodge Caravan pendant très longtemps.
Qu'elles étaient très peu chères.
Puis si tu m'avais dit en 2008 qu'on pourrait acheter la même Dodge Caravan en 2020, je t'aurais jamais cru. Alors là, de dire que la Pacifica actuelle 2021-2022 sera encore commercialisée en 2026, ben j'ai presque envie de te dire, ben pourquoi pas? Mais les choses risquent de changer énormément. Et oui, on a un véhicule hybride rechargeable dans cette famille-là, mais je veux dire, c'est des véhicules qu'on vend au compte-gouttes au Canada par rapport à l'ancienne Dodge Caravan. On a vendu, en fait, au Canada cette année... un total d'à peu près 6500 fourgonnettes, incluant la Chrysler Grand Caravan et la Chrysler Pacifica. Donc, je peux te dire que par rapport aux 20 quelques mille Dodge Grand Caravan...
Il y a un gros vendu, manque à gagner.
Ben, oui. Alors, c'est sûr que la marque Chrysler est à la dérive, mais ça sera la façon de relancer cette marque-là par l'électrification.
Chevrolet aussi a dévoilé un véhicule qui était très attendu, le Silverado électrique. Bon, c'est ni plus ni moins que l'équivalent hein, du GMC Hummer qu'on avait pu voir il y a quelques mois. Donc, enfin, une version électrique. On nous promet une autonomie de 640 km.
Jusqu'à.
Donc, en optant pour, entre guillemets, la grosse batterie. Malheureusement, on n'a pas les détails techniques là, liés à la capacité de la batterie. Donc, j'imagine que ça viendra au fil du temps. On nous promet aussi une capacité de remorquage de 10 000 livres, tout dépendant, encore une fois, de la version choisie. Et viendra plus tard une capacité de remorquage de 20 000 livres. Donc, je ne sais pas comment on va réussir à faire ça, mais ça promet. Ça, il n'y a aucun doute.
Le Silverado EVHD.
Oui, ça fait beaucoup de lettres.
Mais en fait, ce que je trouve intéressant aussi de ce concept-là, c'est qu'on n'a pas dévoilé uniquement un modèle à 125 000 $. On a aussi dévoilé le Work Truck.
Exactement.
Et une version Trail Bus.
Exactement. En fait, la version Trail Bus, on nous l'a dévoilée de manière très timide, avec aucun détail, mais ça nous indique tout de même que Chevrolet entend avoir une offre très diversifiée de son Silverado électrique, comme c'est le cas notamment avec la version à essence. Donc, ce ne sera pas une version électrique, ce sera des versions électriques. Et oui, tu parlais d'un prix assez élevé. Donc, avec une version de lancement, on est à 120 000 $ au Canada. C'est assez colossal. Mais pour une version Work Truck, donc, et là, vous irez voir les photos sur le site du Guide de l'Auto. C'est visuellement peut-être un peu moins tape à l'œil, mais on a une couleur gris non métallisée, des jantes
d'acier.
Bref, un véhicule de travail, un véhicule très ordinaire, mais qui est 100% électrique. Et là, on nous parle d'un peu plus de 50 000 $. Alors là, tout d'un coup, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais ce ne sera pas 640 km d'autonomie pour cette version-là, avec un prix d'entrée aussi alléchant. Mais on aura des détails, là, j'imagine, au fil des mois à venir.
On peut aussi se demander pourquoi on a utilisé le nom Silverado, alors que le nom Avalanche aurait pu être utilisé, puisqu'on reprend le concept du précédent Avalanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jonction entre la caisse et la cabine du véhicule. Et
rabattre la banquette arrière, rabattre aussi
la paroi ou le muret qui se situe entre la caisse et la cabine.
Et ça permet d'avoir là un espace de chargement qui est largement bonifié.
On parle de plus de 10 pieds d'espace de caisse lorsque tu rabats les sièges arrière.
Même si tu te mets à plat et que tu tires les bras, tu touches ni à un bout ni à l'autre. Là.
Exactement.
Ça frappe l'imaginaire. On est dans le tape à l'œil, forcément. On a un grand toit en verre aussi. Donc, on a un paquet de gadgets, mais...
Mais ça me rejoint quand même un peu plus, moi, personnellement, que le Hummer, que je trouve trop ostentatoire pour mon goût personnel. Je vais préférer un camion comme celui-là à celui de GMC, mais ça permettra à la clientèle de GM d'avoir deux choix. Et pour une fois, on n'a pas le même véhicule chez Chevrolet et chez GMC. Mm-hmm. Ça, je trouve ça intéressant.
Oui, parce que les véhicules semblent assez bien distinctifs là, pour ce qu'on en sait pour le moment. Et tu mentionnes...
Parce qu'il n'y a rien de plus identique qu'une Savannah et une Express.
Ça me paraît assez similaire, effectivement. Mais même le Silverado actuel à essence et le Sierra à essence, tu sais, tu as quelques détails cosmétiques différents, mais sinon, c'est du pareil au même. Et bon, tu mentionnais une version Trail Bus. C'est intéressant. Et même sur le plan visuel, c'est intéressant. Là. Donc, on a une approche totalement différente d'avec les deux autres versions. On a des pneus, là, un profil peut-être un peu plus agressif pour du hors-route et compagnie. Donc, franchement, c'est bien intéressant.
VinFast, on en avait parlé parce que VinFast avait dévoilé des véhicules du côté du salon de Los Angeles. On n'a pas lancé la serviette et on a prouvé qu'on était extrêmement sérieux. On a dévoilé 3 autres nouveaux véhicules qui viendront sur le marché canadien. Alors, il y aura 5 véhicules au total de commercialisés par VinFast très rapidement.
C'est une offensive, ma foi, très agressive hein, de la part de ce constructeur vietnamien. Donc, on nous a dévoilé, comme tu l'as dit, 3 VUS, je les nomme en rafale, le VF5, le VF6 et le VF7. Oui, bravo.
Ah, wow.
Bravo Antoine, tu as un très fort sens de la déduction.
On s'est inspiré des nomenclatures de chez Polestar, 1, 2, 3.
Oui, à peu près, à peu près. Mais quand viendra le temps d'intégrer le VF5,5, ben peut-être que ce sera différent. Je ne sais pas ce qu'on fera rendu là. Mais enfin, on n'a pas eu de grand...
5,5, c'est parce qu'il va y avoir une toilette.
Ouais, c'est ça, exactement, comme un appartement. Mais tout ça pour dire qu'on nous les a dévoilés, on nous les a présentés, on nous a dit qu'ils arriveraient éventuellement au Canada, mais on n'a pas de grands détails techniques, de capacité de batterie, d'autonomie. J'imagine que tout ça suivra, mais ça prouve une fois de plus que VinFast a des intentions très sérieuses en Amérique du Nord.
Oui, oui, on se laissera pas abattre, puis on est très sérieux, puis on n'arrive pas timidement. Tu sais, on regarde comment Polestar fait les choses depuis leur arrivée.
Un véhicule à la fois, tranquillement.
C'est pas évident. Évidemment, c'est une entreprise qui perce le marché mondial, et bon, ben, comme n'importe quelle entreprise, les véhicules électriques dans certains pays scandinaves sont très populaires. Volvo est une entreprise scandinave, bon, maintenant appartenant à des Chinois, mais on peut comprendre que Polestar soit peut-être un peu plus timide sur notre marché que sur d'autres marchés, mais VinFast semble arriver à vitesse grand V.
Oh, grand V, hein, oh, quand même. C'est bien dit.
et on va voir ce que ça va donner, mais on ne sait pas exactement quand ces véhicules-là vont rouler chez nous, mais ça semble être très, très, très rapide comme approche.